dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Allez, bonsoir. Ce soir, c'est notre dernière émission en direct.
Oui.
On se retrouve donc en septembre après. Pour ce soir, on va vous parler.
Je sais pas ce qui peut se passer pendant les vacances.
Tout
hein.
à fait. Pour ce soir, on va vous parler un peu des vendanges, hein, puisqu'il y a du nouveau. Ensuite, on vous parlera un peu des élections et on finira la dernière demi-heure sur la Kanaky. Alors, un petit peu de. Le repos hebdomadaire pour les vendanges, ça serait terminé.
Alors, on va remonter d'un cran. On va dire que ce qui est formidable avec l'État et avec les gouvernements et avec la politique, c'est que même quand ils commandent pas, c'est toujours les chefs. et l'inverse est vrai. Hein. C'est-à-dire que quand c'est pas eux les chefs, c'est eux qui commandent. Et donc, depuis quelques semaines, vous le savez, puisque le gouvernement du et démissionnaire, puisque là, normalement, hein, la loi, elle ne s'applique qu'aux pauvres, hein, bien sûr, toujours. La loi électorale dit que quand il y a des nouvelles élections, hein, le pouvoir législatif étant issu du scrutin, du suffrage dit universel, il est donc dans l'Assemblée nationale. Et donc, l'Assemblée nationale, tant qu'elle n'est pas composée, recomposée et élue, il n'y a pas de gouvernement. En l'occurrence, le gouvernement actuel est démissionnaire. Donc, le Premier ministre a donné sa démission au président de la République, qui l'a refusé. Et donc, le gouvernement est toujours là pour gérer, soi-disant, les affaires courantes. Alors, les affaires courantes, c'est quoi? Quand on s'en appelle, c'est quand même des choses qui sont extrêmement importantes et qui, surtout, vu qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale, ce sont des lois ou des changements.
Des décrets.
Voilà. Donc, qui sont non discutés, non discutables, qui sont directement appliqués ou applicables dès leur publication au journal officiel, hein, parce qu'on peut rédiger un décret, mais pas le publier au JO, au bulletin officiel et au journal officiel. Mais du coup, dès qu'il rentre dans le journal officiel, il prend force de loi. Alors, on en a vu quelques-uns par-ci par-là. On a vu des décrets qui concernaient, le budget. Ce qu'on peut éventuellement comprendre pour une organisation, même s'il s'agissait en fait de faire des coupes dans le budget. On a vu d'autres décrets qui concernaient l'organisation de l'État. Et puis le 10 juillet, on a eu la surprise de voir un décret qui concernait le droit du travail et le ministère de l'Agriculture, donc signé par trois entités, le ministère du Travail, le ministère de l'Agriculture et les premiers ministres, hein, évidemment, ouais. Concernant les vendanges. Et que disait ce décret? Eh ben, ce décret suspendait le jour de repos obligatoire pendant la période des vendanges. Alors, on l'a dit, on l'a répété à de multiples reprises, la viticulture et les vendanges ne font pas partie du code du travail, mais ont une base qui est majoritairement le code rural, puisqu'il s'agit d'un travail agricole et d'un travail viticole. Mais heureusement pour nous, il y a eu quand même des conquêtes et des luttes qui ont permis d'avoir un minimum de droits du travail qui se sont, glissés à l'intérieur de ce code rural et qui ont permis d'avoir un minimum d'encadrement. Puisque, mais on reste quand même sur des bases du code du rural, ce qui fait qu'on considère que la denrée qu'on récolte étant périssable, c'est vraiment le terme exact, comme les moissons, comme les fruits, comme etc., etc., on peut être amené à outrepasser le droit du travail réglementaire. Ce qui nous donne, notamment pour la cueillette, des journées de travail qui peuvent aller jusqu'à 12 heures et des semaines de travail qui peuvent aller jusqu'à 66 heures. Et même, pour le pressoir, 72 heures, voire 74 heures dans des circonstances exceptionnelles où il y a des tonnages. Bon, je rentre pas dans les détails, mais on est quand même sur des bases de dingue. Hein. 72 heures, ça fait 6 jours à 12 heures. Hein. Ça fait 7 jours à 11 heures, à 10h30, quoi. Vous imaginez ce que ça veut dire pour dans la gueule, quoi, au niveau du travail. Et donc, normalement, dans le code du travail, on n'a pas le droit de travailler 7 jours d'affilée. Oui. Il faut qu'on se repose, hein, quand même. Bah sinon, on meurt, quoi, en fait. Tout simplement, si on se repose jamais, à un moment, on claque, quoi. Et c'est bon, il pouvait y avoir, en cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations qui étaient demandées, mais qui devaient être demandées par le viticulteur, l'employeur, à la directe, donc la direction départementale de l'organisation régionale, pardon, de l'organisation du travail. Et puis, bien évidemment, ça, c'est quand ce sont des viticulteurs qui sont employeurs directs. Mais comme la plupart du temps, on passe par des prestataires de services. Bon, alors, il faut vraiment que vous tombiez sur un prestataire de service qui soit vraiment aux petits oignons pour qu'il fasse une demande. Hein. On va dire qu'en jouant avec les différents types de contrats, etc., il n'est pas obligé de demander la demande. Mais cette demande, elle pouvait être refusée. Et d'ailleurs, elle était amenée d'être de plus en plus refusée, puisqu'il y avait eu un arrêt du Conseil d'État et une jurisprudence du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction en termes administratifs. Donc, c'est elle qui donne... qui rend les lois en droit du travail, ouais, pardon, ouais. Tu as raison, qui disait, mais en fait, les vendanges ne sont pas des circonstances exceptionnelles puisqu'elles reviennent tous les ans. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Donc, c'est à vous d'organiser votre travail selon les prévisions que vous allez avoir. Et si jamais vous n'êtes pas en capacité d'avoir cette période de 6 jours ou de monter à 7 jours, ben vous prenez plus de monde pour avoir un peu plus, un peu moins, ou vous prenez moins de monde et vous faites plus, quoi. C'est tout simple. Alors, souvent, ce qui va être dit à l'employeur, c'est que dire ouais, mais les vendangeurs, c'est les vendangeurs qui veulent.
Ouais, c'est ça, c'est
parce
ce
qu'ils veulent.
Ce dans le journal,
ils
ouais.
veulent des sous.
Ils veulent des sous, ouais.
Les salauds, parce qu'en plus, ils veulent être payés, quoi. Tu vois.
La seule chose qu'ils demandent, c'est des sous.
Ben voilà, c'est la seule chose qu'ils demandent, c'est du pognon, quoi.
À crever, quoi.
Exactement.
À en crever.
Alors, peut-être aussi poser la question d'une autre manière. Si, par exemple, ils travaillaient moins, mais qu'ils étaient payés plus, peut-être qu'ils ne seraient pas obligés de faire plus d'argent. Parce que, si on revient quand même aux données principales, on parle d'un décret qui a été... donc donné le 10 juillet, et qui concerne 35 000 hectares. Donc, il y a 100 000 personnes qui sont employées.
120 000.
Ouais, entre 100 et 120 000, ça dépend des quantités, mais je parle sur une base de 100 000, qui sont donc employés sur cette donnée. Donc, ça représente quand même 100 000 personnes. Il y a deux ans, même pas un an, nous sommes passés en catégorie métier en tension. Donc, qui nous permet d'avoir, notamment sur les travailleurs étrangers, beaucoup plus de facilité pour venir, notamment par rapport à des travailleurs étrangers qui viennent de plus en plus d'Europe de l'Est, mais aussi d'Afrique de l'Ouest, des gens qui, évidemment, n'iront jamais au prud'homme, ne se plaindront jamais de quoi que ce soit, puisque pour eux, c'est vital. Et on est, par exemple, sur 100 000 personnes, 6,3 milliards de chiffre d'affaires l'année passée pour le champagne et pour les spiritueux, les effervescents. Donc 82% pour le vignoble champenois. Donc ça fait 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que dans ces 5,6 milliards d'euros, il n'y a pas moyen de débloquer ne serait-ce que quelques centaines de milliers d'euros pour payer les gens correctement? Et donc voilà, on a en plus une actualité qui est quand même particulièrement dramatique, c'est que l'année dernière, on a eu 4 décès liés.
6.
Alors, je dis 4 parce qu'il y en a 4 qui ont été reconnus directement
oui.
En lien avec l'activité.
Avec les conditions de
c'est
travail.
C'est ça. Et il y en a une qui reste encore à déterminer et une autre qui est décédée chez lui. Voilà, évidemment, on a tiré tout ce qu'il fallait. Mais tu as raison, on peut parler d'entre 4 et 6 décès liés à ça. Évidemment, aucune leçon n'a été tirée là-dessus. L'année dernière, on a eu des larmes de crocodile par rapport au SGV. Mais évidemment, la seule réponse qui est apportée, c'est ce nouveau décret qui risque encore d'aggraver la situation. Parce que si encore, à la limite, il y a des gens qui pouvaient avoir l'éventualité de demander leurs droits en disant « Bon, ben, moi, je ne veux pas travailler 6 jours. Est-ce que tu as fait la demande, machin, etc. » Là, au moins, les choses sont claires. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. À titre personnel, j'ai un record de travail de 27 jours d'affilée dans le vignoble Champardenais. Je peux vous dire que on ressemble vraiment plus à grand-chose quand on est comme ça. Et encore, j'avais l'avantage d'être à l'heure, donc je pouvais encore gérer mon travail. Mais moi, j'ai vu des gens travailler 17 jours d'affilée en tâche. Il est évident que dans ces types-là, les accompagnements de type non légaux sont évidemment les bienvenus. Quand on ne parle pas de l'alcool, évidemment. Parce que c'est dans ces conditions-là aussi qu'on parle. C'est-à-dire que pour accepter ce type de travail, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir soit besoin d'argent, soit être dans des conditions où on ne peut pas refuser ces conditions de travail. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? On a finalement une dégradation du travail, du propre travail qui est effectué par les gens et de la propre main-d'œuvre qui était là. C'est-à-dire, quel rapport tu veux avoir au travail quand tu es employé comme une bête ? Et donc, on a en fait des viticulteurs qui font de la merde et qui font n'importe quoi. N'importe quoi pour gagner un peu de thunes, pour gagner quelques centaines d'euros tous les ans en plus, pour se payer un nouveau scooter pour le gamin, un nouveau quad ou des vacances, etc. Et qui ne comprennent pas qu'ils sont en train de tout déglinguer, quoi. Je rappelle souvent cette anecdote. Dans mon village, on avait un bar qui est de plus en plus fait la gueule, bar tabac, parce que il y a quelques années encore, les vendanges c'était la fête pour lui en termes de chiffre d'affaires, etc., etc. Et là, depuis 2-3 ans, il fait vraiment la gueule parce que le plus grand employeur du village a décidé de passer par un prestataire de service qui emploie des Polonais. Et les travailleurs polonais, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils viennent avec leur bouffe, et ils viennent avec leur clope, et ils viennent avec leur alcool. Donc, ils viennent pas consommer sur place. Ils viennent pas du tout consommer sur place, quoi. Et résultat, ce pauvre buraliste, limonadier, bistrotier, bah, y a plus personne qui vient dans son bled pour dépenser son argent, quoi. Alors bon, voilà, hein, il faut pas non plus être complètement con, hein. Notre ministre du Travail est Catherine Vautrin et Arnaud Robinet, qui sont extrêmement proches des milieux viticoles. Faut-il rappeler la puissance de la bourgeoisie viticole, hein, notamment pour les élections sénatoriales, mais pas que. On est vraiment sur des choses extrêmement importantes. Et on a certainement vu qu'il y avait aussi des petits problèmes parce que à l'intérieur de la sphère politicienne locale, là, c'est en train de bouger. Il va y avoir quelques petits ajustements, à mon avis, qui vont se faire au cours des prochains mois, voire des prochaines années. Mais il va vraiment falloir cette année faire beaucoup d'informations parce que là, ça devient vraiment très très compliqué. Et il est fort à penser que les conditions de travail et de chaleur risquent d'être les mêmes. Là, on est en train de départir sur un été qui s'annonce très chaud, avec des nuits très chaudes, alors qu'on a eu un mois de juin très pluvieux et assez chaud, mais très pluvieux. Donc ça va pousser très fort, ça va aller très vite, et il n'est pas improbable qu'on tombe sur des vendanges au mois d'août, quoi. Donc voilà à quoi ça sert les décrets. C'est donc un petit cadeau aux employeurs avant de partir. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle une politique de classe, hein, clairement.
Ouais.
C'est limpide. Et j'espère que jeudi, on aura l'occasion d'en discuter, parce que c'est aussi sur des choses comme ça que nous, on peut agir pour aller demander des explications aux députés et pour aller mettre un moyen de pression, pas seulement en constituant et en faisant des votes et en attendant que les choses se fassent. Voilà tout à fait des questions qu'on peut poser en demandant aux députés ou représentants politiques qui est-ce que ça arrange, ça sert.
C'est dit, hein, le jour de repos n'arrange aucun vigneron, t'as compris.
Donc, oui, mais ça, de toute façon, c'est l'Union. Donc, franchement, il faut lire les articles de l'Union. Ils n'ont même pas réussi à trouver un vendangeur. Ils ont trouvé Kevin Beaulieu, délégué syndical du vignoble chez Veuve Clicquot, hein, qui est quand même au maximum de ce qu'il peut dire, puisqu'il dit faut quand même une coupure, hein. Faut pas oublier qu'il y a eu des morts. On a l'impression que c'est normal de mourir au travail. Et qu'est-ce qu'on a ? On a l'interview de Maxime Toubard. Donc Maxime Toubard, c'est le secrétaire du SGV, hein, qui dit ah ben c'est pas nous, c'est les vendangeurs qui demandent. Bah oui, bien sûr. Et dans un communiqué commun, Xavier Albertini, donc les députés Laure Mineur et Ilir Magnier, députés des 1er et 2e et 4e circonscriptions de la Manche, saluent ce décret, rappelant au passage jusque présent la situation était incongrue, puisque pour tout contrat se déroulant 2 semaines calendaires, l'employeur se devait dans l'obligation d'octroyer un jour de repos. Certains vignerons auraient été alors contraints de faire débuter la période de travail des vendanges par un jour de repos.
N'importe quoi.
Mais qu'est-ce qu'on en a à branler des employeurs et des vignerons ? Enfin, je veux dire, il y a des êtres humains derrière. C'est pas des sécateurs, quoi. Leur putain de raisin de merde, s'il n'y a pas des gens qui viennent le cueillir, ils se démerdent avec. Si on n'est pas là, ils sont pas là. Enfin, il n'y a même pas un mot pour rappeler les conditions de travail qui se sont passées. À quoi on est ? Qu'est-ce qu'on est pour ces gens-là ? À part, évidemment, aller voter pour eux de temps en temps. Enfin, c'est quand même... Maxime Toubard, président du syndicat général des vignerons, disent « Ah, c'est bien parce que ça va permettre de vendanger plus sereinement et ça va donner de la souplesse. » Ouais, ben il en faut de la souplesse pour aller chercher le raisin, ça c'est sûr. Il explique que les vendanges durent à peu près 12 jours au maximum et qu'en ce court laps de temps, le souhait des saisonniers est de travailler sans discontinuer. Ils veulent repartir avec la plus grosse paye possible. Ah, c'est vraiment des salopards, hein. On a perdu beaucoup qui trouvaient que ça ne valait plus le coup de venir passer pour passer une journée de repos. Eh ben tu payes les gens. Notre idée n'est pas de pousser les gens à travailler plus, mais c'est la maturité des grappes de raisin qui guide les vendanges. Amen. Hamdoullah. Quand le raisin est mûr, il faut y aller, hein. Et quand il n'est pas mûr, du coup, qu'est-ce qu'on fait, alors ? On travaille toute l'année dans nos parcelles de vignes pour arriver aux vendanges avec une qualité irréprochable. Alors, on propose à Maxime Tsobar, puisqu'il travaille toute l'année dans ses parcelles de vignes, et ben d'aller travailler aussi dans ses parcelles de vignes pendant les vendanges. Voilà. Bon, ça, c'est quand même des marques de mépris de classe qui sont vraiment très, 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 très fortes. Et c'est pas étonnant de voir des gens s'insérer avec ce type de vocabulaire, quoi. Vraiment, on rêve qu'un jour que la tendance s'inverse. Mais
je te signale que les 3 élus là, qui se frottent les mains, là, ils ont été élus avec des voix et les filles.
Oh bah oui, et puis ouais. Du PCF, et puis des Verts, et puis de tout ce que tu veux, et c'est l'antifascisme, hein. C'est le front républicain, quin, bah oui, voilà, et une fois de plus, alors, est-ce qu'on va être cocu ? Est-ce qu'ils vont être cocus, les bras électeurs?
Parce que... Je pense que oui.
Parce que c'est quand même parti, le Front populaire là. Qui a gagné, il paraît.
Oh, ça, Macron dit le contraire.
Ah bon?
Macron, lui, si tu veux, finalement, quand on regarde bien, ce Front républicain a sauvé Macron. Alors peut-être que ceux qui sont élus sous la bannière de Macron, d'une manière ou d'une autre, risquent d'être en crise, et ils sont en crise. Ils risquent de se bouffer le nez, tout simplement, parce qu'il y a moins de postes à prendre.
Alors, je permets de te faire... Tu as raison sur le fond, mais c'est en fait les désistements qui ont permis
hein.
Voilà, aux candidats ensemble ou appartenant à la majorité présidentielle de gagner des cas. Et on regarde que un peu plus de 70%, un peu plus de 80%, pardon, entre 70 et 80% selon les cas, des électeurs de gauche ont joué, entre guillemets, le jeu contre 54 à 63% des électeurs d'ensemble.
De
droite. Et oui, bah, tu peux mettre dedans.
Et de droite. Oui, mais voilà. Ça, c'est...
Donc on voit que là, c'est vraiment la gauche qui a, comme ça... tu dis, sauvé le cul à la majorité, puisque normalement, s'il y avait eu un maintien, et on va dire, on aurait pu parier sur moins de 100 députés à l'Assemblée nationale, mais évidemment...
Le RN aurait eu beaucoup plus.
Certainement. Mais s'il y avait eu des désistements aussi... je pense par exemple dans le Vaucluse et dans le Gard ou à Marseille où Yann-Marie Pétel qui s'est pas désisté etc. Il y aurait eu certainement plus d'élus de gauche aussi si la règle du désistement avait été appliquée fermement partout. Mais il faut toujours rappeler que le Front républicain, c'est pour vous, hein, les travailleurs, hein, c'est pas pour les bourgeois. Voilà, mettez-le-vous dans la tête, hein, c'est toujours vous. Et voilà. Tu disais donc.
Je disais quand même, on a dit beaucoup de choses par rapport à ces élections, à cette antenne. Je crois qu'il faut quand même en rajouter une louche. C'est-à-dire que ce qui est central dans la montée du RN, je pense que c'est le racisme. La profondeur du racisme en France, qui est quelque chose vraiment d'incroyable. Il y a un article que j'ai sous les yeux, qui est paru dans le journal Le Monde, de Fabien Escalona et de Romaric Godin, qui date du 9 juillet, donc, et qui dit qu'on n'en est pas sorti. C'est-à-dire que la prochaine fois, on y retourne. Ailleurs, en plus, la prochaine fois, ça sera certainement... eux qui prendront le pouvoir, peut-être. C'est pas sûr parce que ils ont des gamelles au cul, c'est moins qu'on puisse dire.
Alors, moi j'ai une interrogation parce qu'on en discutait ce week-end. Est-ce que la société aujourd'hui, la société française, est plus raciste qu'auparavant ou moins raciste qu'auparavant? Alors, c'est difficile parce qu'il faudrait savoir à comment on le mesure.
Ouais.
Il me semble que, quand même, y a des choses qui peuvent être... mesurés, qui sont la mixité dans les couples, l'intégration d'une partie des enfants d'immigrés du Maghreb de la deuxième, voire de la troisième génération. Mais si on va d'un autre côté et qu'on mesure les discriminations, là, bien sûr, évidemment, il y a toujours des choses. Donc c'est quand même assez difficile. Là, on a quand même eu une opération véritablement politique de présentation de ce Rassemblement national comme à la fois d'une alternative potentielle et avec quand même un milliardaire qui a mis en avant au service de son projet politique Bolloré qui a été quand même d'une puissance. On a calculé que Jordan Bardella passait à peu près, toutes chaînes confondues, services publics et services privés, tous les 3 jours. À la téloche et sur les radios. C'est impressionnant, quoi, en termes de... Et on n'a pas pu parler de quoi que ce soit, vraiment. Pas pu parler d'absolument quoi que ce soit. Ni des programmes, ni de la situation dans laquelle on est, ni de l'écologie, rien, de strictement rien du tout, quoi. Ça a été vraiment... passons en plus la campagne de diabolisation de la gauche et des soutiens pro-palestiniens, qualifié immédiatement d'antisémite, alors que là on a une première estimation de la part qui a été reprise par des instances internationales, mais qui sont des estimations des revues médicales, notamment The Lancet, qui est la meilleure revue scientifique médicale, une revue anglaise, qui estime les décès à Gaza, pour les décès directs et indirects, donc, c'est-à-dire directement victimes de plus de 136 000 personnes, avec une potentialité à 180 000, donc on est à 1% de la population là.
Ouais. On va se quitter parce que je crois que on a une petite pause musicale à faire juste
alors,
avant.
Alors, ben on va juste, ben je sais pas si on reparlera après avant la Kanaki, mais on va voir ce qui va se passer le 18, donc qui est la date ultime où le gouvernement doit être fait et où les députés rentrent à l'Assemblée nationale. Il y a des rassemblements. On va voir si après les élections, on va faire enfin un peu de politique.
Allez, maintenant on passe à la Kanaky. On va vous passer un extrait d'une émission de l'actualité des luttes. C'est en fait un interview d'une copine de Solidarité Kanaky, une association qui s'est recréée avec les événements de là-bas. Cette copine sera d'ailleurs à notre camping d'été qui commence la semaine prochaine, qui a lieu à Vézerac, c'est-à-dire dans le Tarn-et-Garonne. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site de l'OCL et vous aurez toutes les données pour ce camping. On y va maintenant.
On va passer un petit peu à ce qui s'est passé plus récemment, ouais, hein, ces derniers mois. Donc on a vu qu'il y avait eu un réveil ces derniers temps, justement concernant le corps électoral qui, voilà, peut voter, et remettant en question évidemment ce troisième référendum contre l'indépendance de la Kanaky. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer, ouais, un petit peu les nouvelles forces en présence, ouais, et puis les formes de lutte que ça a pris, et puis évidemment la répression qui s'est abattue sur ce mouvement légitime.
Alors d'abord une précision, le projet d'ouverture du corps électoral, c'est pas par rapport au référendum, c'est pas par rapport au corps électoral référendaire, c'est par rapport au provincial.
D'accord.
Et donc depuis le troisième référendum, Macron essaye de passer en force et de sortir de l'accord de Nouméa et de dire voilà, maintenant c'est la France, donc maintenant les gens qui sont là juste depuis 10 ans pourront voter au provincial. Et donc, c'est une volonté d'ouvrir le corps électoral. Les indépendantistes ne sont pas contre d'ouvrir aux natifs. Voilà. Mais par contre, là, c'est en comptant les natifs et l'ouverture à juste des gens qui sont là depuis que 10 ans, donc même après les accords de Nouméa, on a 25 000 nouveaux. Ça serait l'équivalent de 25 000 électeurs d'un coup
en plus
qui arriveraient. Sans compter ceux qui arriveraient plus tard. Donc c'est vraiment minoriser le peuple kanak. Si en proportion, c'est comme si on avait une ouverture en France de 7 millions d'électeurs d'un coup. Ouais. Ce qui est énorme et ce qui va changer le paysage politique sur place. L'idée, c'est de reprendre la tête du gouvernement local. Et vraiment, ça aura une conséquence aussi au niveau de l'emploi, au niveau de plein de choses localement. Donc par rapport à ça, par rapport à ce document qui a été proposé, les indépendantistes ont dit non, mais c'est pas possible. On va en dessous du plancher de l'accord de Nouméa. Et donc, malgré le forcing de l'État français, ils ont créé la cellule de coordination des actions de terrain dès novembre dernier, où il y a l'ensemble des courants indépendantistes. Il y a le FLNKS à l'intérieur, les partis du FLNKS qui sont à l'intérieur, en tout cas de la base, à part un ou deux partis qui ne sont pas en tant que tels dans la CCAT. Mais en tout cas, c'est une réunion de militants indépendantistes et de courants, de partis indépendantistes. Aussi, au-delà, ça va avec des syndicats aussi. L'USTKE ne fait pas partie du FLNKS, mais est dans la CCAT.
D'accord.
Voilà. Donc, ce qui est créé, c'est une unité qui va au-delà de l'unité du FLNKS. Donc, c'est quand même assez puissant, comme, et surtout avec une mobilisation par la base aussi, et locale dans les différentes villes, etc. Et donc du coup, les mobilisations, elles ont commencé dès novembre, il y a eu de l'information, et comme la CCAT le dit, il y a plusieurs phases dans leur projet de mobilisation. Donc les premières phases, c'est la sensibilisation, de l'information, après il y a eu des mobilisations locales, et puis après on arrive en janvier, où il y a le dépôt des deux réformes, report des élections provinciales. Bien sûr, on n'a pas encore dégelé le corps électoral, donc on va les reporter. Comme ça, on a le temps d'ouvrir le corps électoral, de faire rentrer 25 000 électeurs. Et puis comme ça, après, on reprend le pouvoir. Et voilà. Donc première loi, c'était la loi organique qui est déposée dès janvier. Et puis après, il y a le projet de loi en même temps l'ouverture du corps électoral. En janvier, les mobilisations commencent à être fortes et aussi sur Nouméa, puisqu'il commence à y avoir au niveau du congrès local la discussion au niveau du report des élections, etc. En février, il commence à y avoir de la répression. La manifestation du 21 février, qui était assez énorme sur Nouméa, ils se sont fait empêcher de circuler, ils se sont fait envoyer sur une autre voie. Et là, il y avait des gendarmes mobiles. J'en parle parce que là, il y a eu de la répression. Deux camarades ont été arrêtés pour blessures sur gendarmes mobiles, blessures légères. Mais eux, ils prennent 2 ans ferme, ce qui est énorme en termes de condamnation. Aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont, hein, les deux camarades. Ils étaient soi-disant au camp Est, mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas où ils sont. Donc, ils ont été au camp Est, mais là, les familles les cherchent, quoi. En avril, la loi passe au Sénat, le 2 avril. Le 13 avril, il y a une énorme mobilisation dans toute la Kanaky, dans les îles, partout. Il y a plus de 80 000 personnes qui ont manifesté en Kanaky. Donc il n'y a pas que des Kanaks. Les Kanaks sont 120 000 en gros. Donc il y a aussi d'autres communautés qui sont sur place et qui se sont mobilisées avec les Kanaks contre ce projet de loi. Avant le 14 mai, du 4 au 5 mai, en fait, il y a l'anniversaire de la mort de Jean-Marie Tjibaou et en même temps, il y a l'anniversaire de la grotte d'Ouvert. Et de ce week-end-là, du 4 au 5 mai jusqu'au 12 mai, il y a une mobilisation en continu tous les jours dans toutes les villes, etc. En Kanaky, avec la CCAT, il y a une mobilisation continue. Donc là, tout se passe pacifiquement. Du côté Kanak, il n'y a pas eu de... Enfin, je le dis parce que ça, ils ont été accusés
de quoi, de violence,
de violence, etc. Mmh. Alors qu'il n'y a jamais rien eu. Et par contre, il faut bien du côté de l'État colonial, il faut bien provoquer en fait. Il faut bien mettre une étincelle. Donc on rappelle le vote à l'Assemblée nationale a eu lieu le 14 mai. Ça a commencé à péter déjà le 13 mai. Pourquoi ? Le 12 mai, des jeunes Kanaks se font arrêter pour port de drapeau Kanak. Ce qui est quand même c'est du jamais vu.
Incroyable.
En Kanaky.
Ouais, ouais.
Le drapeau Kanak, il est partout en Kanaky. Première provocation, le 13 mai, ça a été une grève de deux fédérations de l'USTKE qui a été suivie à plus de 90%. Donc la fédération transport terrestre aérien et hôtellerie, donc qui ont pu bloquer notamment l'aéroport, enfin pour tout ce qui était commercial. Et la fédération port et dock qui a bloqué aussi pas mal, qui a pu ralentir vraiment au niveau du port. Ce jour-là, ben, du coup, il y a quand même une démonstration de force aussi de simplement deux fédérations qui bloquent l'activité. La police, enfin des flics, partent au quartier de Montravel, quartier le plus populaire de Nouméa, un des quartiers les plus populaires, et tirent au flashball sur des jeunes Kanaks qui portaient le drapeau Kanak. Donc là, c'est l'étincelle, en fait, qui a fait qu'à un moment donné, la jeunesse Kanak a dit « là, c'est plus possible ». Là, on ne va pas se faire écraser comme ça, c'est pas possible. Et il y a eu une mobilisation par rapport au vote du dégel du corps électoral et de la répression qui était en train de se mettre en place. Et cette violence-là, elle a continué jusqu'à aujourd'hui. Là, même si Macron dit que, là, quand il a annoncé à sa venue qu'il y avait un retour au calme, etc., jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui sont victimes d'agressions policières, militaires, qu'il y a des personnes qui reçoivent des grenades de désencerclement sur leur toit. Enfin voilà, c'est hyper dur. Et surtout, il y a les milices locales racistes et coloniales qui ont pu agir en toute impunité depuis le début. Donc, soi-disant pour...
Quand tu parles de milices, c'est quoi ? C'est des loyalistes, des gens qui sont contre
l'indépendance ? C'est de l'extrême droite, c'est de l'extrême droite locale, blanche. Voilà. Okay. Nouméa est très ségrégué. Le sud, c'est plutôt des quartiers blancs. Et voilà, il y a des quartiers plutôt populaires, Kanak et océaniens. Mais en fait, ce qui a été dit dans les médias, c'est soi-disant une protection de certains quartiers armés, hein, avec des armes de guerre.
Carrément.
Voilà. Mais par contre, il y avait quand même des pick-up qui circulaient dans Nouméa et qui allaient en direction des quartiers populaires pour aller faire de la chasse à l'homme.
Ouais, et qui n'étaient absolument pas arrêtés par les forces de l'ordre.
Et pire que ça,
accompagnés.
Dont les responsables de ces milices-là ont été vus, ça a été des élus locaux. Donc, par exemple, Philippe Blaise, qui a été vu sur un des barrages de ces milices, armés, en gilet pare-balles, en disant « nos mecs, mes mecs ». Enfin, voilà, c'est vraiment ça. C'est qu'on a sur place des élus locaux qui poussent à cette violence-là, à une haine et à, finalement, des assassinats. Parce que le nombre de blessés pare-balles, on n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, la totalité. Mais c'est quand même énorme. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés. L'hôpital de Nouméa, le Midipol, il y a des services qui sont militarisés. Donc, d'avoir les chiffres exacts, c'est compliqué. Le nombre de morts officiels, là, ça continue. Hein, il y a eu encore 3 morts là, ces derniers jours. Donc, le nombre de morts officiels, on en est à 9 morts côté Kanak. Mais il faut rappeler qu'en fait, même les morts, les deux morts de flics, là, c'est pas des Kanaks qui les ont tués. Et les barrages qui sont tenus par les Kanaks pour protéger leur quartier, c'est aussi pour désarmer, c'est aussi pour se protéger d'assassinats, d'agressions, etc.
Alors, quand tu disais que des milices armées puissent circuler comme ça en toute impunité, c'est une chose absolument inadmissible, mais d'autant plus inadmissible qu'elles sont tolérées et
bien
que
sûr.
Ces gens-là, encore aujourd'hui, ne sont pas arrêtés ni jugés.
Il y a deux personnes au début qui ont été arrêtées. Il y a une personne qui a été écrouée pour deux assassinats. Une personne qui a été écrouée Bon, voilà, on ne sait pas où elle est là actuellement. En tout cas, elle n'est pas au camp Est, hein. Elle est protégée. Et l'autre personne, elle dort avec bracelet électronique. Et après, jusqu'à maintenant, il y a eu des plaintes qui ont été déposées sur les assassinats. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas s'il y a eu enquête ouverte ou pas. Et c'est d'une, voilà, voilà, c'est d'une injustice et d'une violence.
Ouais, ouais, non, mais c'est plus que ça. Ça veut dire, enfin, c'est difficile de trouver les mots, ouais. Mais accepter que des gens puissent prendre des armes et faire justice eux-mêmes, puisque bon, ouais. Voilà, c'est comme ça, en toute impunité, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France tolère que des anti-indépendantistes puissent faire la loi et l'imposer.
Le procureur sur place, le Hausser sur place, le procureur, les élus locaux. Enfin voilà, c'est Sonia Baquès, Metzdorf, enfin, c'est toute l'équipe là.
Tu décrivais un petit peu la tension hein, qu'il peut y avoir dans les quartiers pauvres en Kanaky. Tu parlais des grenades de désencerclement, des gardes à vue, mais aussi des portes défoncées.
Complètement, il y a eu des nombreuses perquisitions avec des violences vraiment terribles et où il y avait la famille, les enfants. Enfin voilà, c'était très dur quoi. Là, dans les derniers jours, il y a eu quand même 3 morts en plus. Il y a le papa d'un des jeunes qui avait été assassiné, qui vient de décéder à cause de asphyxie par un gaz lacrymogène. Il y a une autre personne, pareil, asphyxie, gaz lacrymogène.
Alors, je voulais juste revenir un peu sur cette période où il y a eu...
Il y a plus de 4000 militaires aussi sur place. Hein, qui ont été
Énorme, c'est énorme.
La Légion étrangère occupe le port de Nouméa.
Il y a des blindés qui circulent. Bon, on est quasiment en état de guerre sur place.
C'est une occupation. C'est une occupation coloniale.
Et il y a eu 93 emprisonnements. Moi, c'est ce que j'en étais avec 1260 gardes à vue et puis des déferments. Enfin bon, il y a quand même une énorme répression.
Ça, ce sont les
répression.
Chiffres officiels du procureur.
En plus, donc ça veut dire, c'est comme tu disais par rapport.
Par exemple, le nombre de morts, il y en a beaucoup plus. Ça, on le dit pas, mais enfin, c'est pas, il y a pas les chiffres exacts, il y a pas les enquêtes, mais il y en a plus.
Puis en plus, il y a toujours des gens aussi qui refusent d'aller à l'hôpital parce qu'ils ont peur de se faire arrêter. Donc du coup, ils restent chez eux pour se soigner.
Les blessés, il y en a
mal.
Beaucoup, on n'en parle pas, mais il y en a beaucoup. Comme par hasard, ce dernier mois, les morts naturelles ont augmenté en Nouvelle-Calédonie. Donc bon, il y a vraiment toute une vérité, une lumière à faire sur tout ce qui se passe, les exactions qui se passent.
Nous, on a eu l'impression qu'au moment où il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale en France, comme un espèce un peu d'apaisement qui a été entre autres rompu, mais ça tu vas nous le dire, rompu par les arrestations, les 11 arrestations de responsables du CCAT.
Oui, mais en fait, cette accalmie qu'on parlait, effectivement, les écoles devaient reprendre, etc. Bon, sachant qu'il y avait toujours des gens qui subissaient de la répression policière et des menaces de milices. Ça s'est jamais arrêté. Et en fait, à ce moment-là...
C'est Macron qui vient en Nouvelle-Calédonie. J'imagine qu'il a fait quelques petites promesses.
et met de l'huile sur le feu en arrêtant, là, suite à la dissolution, 11 responsables Kanak qui se rendaient au siège de l'Union calédonienne pour une conférence de presse. Donc, 11 personnes ont été arrêtées. Il y a eu des transferts ici, ils sont tous mis en examen. Les chefs d'accusation, ils sont énormes. C'est de l'ordre de la grande criminalité, avec volonté de tuer, etc. Mais ce qui est important de souligner aussi, c'est que les moyens qui ont été déployés vis-à-vis d'eux dépassent les chefs d'accusation. C'est-à-dire qu'il y a aussi il y a la gendarmerie nationale etc., le GIGN et tout, la direction centrale de la police judiciaire, mais il y a aussi la sous-direction de antiterroriste quoi. Alors qu'il n'y a pas dans les chefs d'accusation, il n'y a pas le truc antiterroriste.
Oui, il n'y a pas une seule... Alors, je voulais juste revenir sur le fait que quand Macron est arrivé, il y a eu quand même, les barrages ont été levés. C'est ça qu'à un moment, enfin en tous les cas, voilà, les barrages ont été levés, il y avait une espèce d'accalmie, peut-être une possibilité de se remettre à discuter, à revoir un peu ces histoires d'accord, mais d'une manière plus apaisée. Et puis finalement, le gouvernement français arrête ces 11 responsables du CCAT et à nouveau déterre la hache de guerre, évidemment, et les barrages reprennent. Donc c'est toujours intéressant
à certains endroits, les barrages n'ont jamais cessé parce que les menaces des milices ont toujours été là.
Ouais.
Mais effectivement, c'était pas comme le 17 mai ou le 14-15 mai. Effectivement, on n'en était pas là. Mais par contre, là, on est à une... Bien sûr qu'il y a une réaction qui est énorme là au niveau du peuple kanak.
C'est une provocation.
À un moment donné, incroyable. C'est une provocation qui est énorme. Mm-hmm. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que dans les audiences, à aucun moment n'ont été évoqués les transferts. Et les avocats apprennent les transferts au moment du délibéré. Mm-hmm. Donc ça, dans les vices de procédure, il y a quand même dans la manière de faire, c'est vraiment complètement... Les avions, ils étaient déjà prêts. Alors qu'il y a aussi des questions de délai au niveau légal, etc. Les avions étaient déjà prêts à partir. Et là, ils sont dispatchés dans différentes prisons, un par prison.
Je voulais juste revenir sur les qualifications dont tu parlais, parce que ce dont on se rend compte, même déjà pour les premières arrestations précédentes, tu parlais d'associations de malfaiteurs.
Là, les deux tours, entre deuxième et troisième.
Et c'est des chefs d'inculpation un petit peu à chaque fois un peu flous. C'est toujours quelque chose à prendre un petit peu avec des pincettes et qu'il faudrait peut-être revoir d'ailleurs dans notre institution.
C'est même plus grave que ça, comme chef d'accusation, c'est la volonté de tuer.
Ah non, mais là, cette fois-ci, tu le disais, c'est pas du tout des incriminations politiques, c'est bien une volonté de la part du gouvernement de faire passer ses responsables politiques du mouvement, et on voit quelle force, quelle importance il a en Kanaky pour des criminels, des voyous, même si je respecte pour les voyous.
Des commanditaires d'assassinat aussi. En fait, c'est leur faire... essayer de leur faire porter le chapeau de tout ce qui s'est passé depuis des semaines.
Dépolitiser complètement les actes qui ont pu avoir lieu et faire passer les révoltés pour des voleurs, des gens sans foi ni loi, etc. quoi.
Oui, c'est ça. Et puis, en fait, c'est une volonté de discréditer tout le mouvement indépendantiste kanak.
Ouais.
Et ce qui est bien clair, c'est que là, on est dans une situation coloniale. Ce sont des prisonniers politiques. L'ensemble des interpellés, depuis le début, ce sont aussi des prisonniers politiques.
Puisqu'ils ont été arrêtés lors de
droit commun, etc. C'est des prisonniers politiques. Mmh. Et oui, il y a cette volonté de discréditer, d'éloigner du mouvement de libération, de les éloigner ici. Mmh. Donc, parmi les 11, en fait, il y en a 2 qui sont assignés à résidence. Et il y en a 2 qui sont au camp Est pour le moment, et 7 qui ont été déportés en France.
D'accord, absolument. Voilà. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est donner leur nom déjà, et puis leur lieu d'incarcération, parce qu'on se rend compte qu'ils ont été complètement dispatchés.
Exactement.
Et notamment pas dans les plus grandes villes où il pourrait y avoir une solidarité plus organisée qui pourrait prendre le jour, même s'il y en a eu, tu vas nous le raconter.
Du coup, il y a Christian Théin, qui est vu un peu comme leader sur place, qui est sur Mulhouse, à la prison de Mulhouse. Il y a Brenda Wanabo, IPC, qui était responsable au niveau de la communication de la CCAT, qui est à Dijon. Il y a Guillaume Vama, qui est à Bourges. Steve Ounay, qui est un des coordinateurs locaux de la CCAT à Caméré, qui est à Blois. Yewa Weatean qui est à Nevers et Dimitri Kenegay qui est à Villefranche-sur-Saône et enfin Frédéric Mouliava qui est à Riom. Voilà, donc c'est cette ville. La volonté de dispatcher, c'est aussi pour pas qu'ils communiquent entre eux.
Voilà. Mais surtout sur des, on voit c'est des petites villes quoi.
Voilà, et puis là où ils ont pu avoir la place aussi, prévoir en avance les transferts parce que c'était déjà prévu avant l'audience. Tout était déjà préparé quoi.
Alors, on a vu dimanche dernier, il y a eu une petite manifestation qui voulait être devant le ministère de la Justice, mais il y avait la Fashion Week, oui. N'est-ce pas ? Donc du coup, on n'a pas pu s'approcher jusque devant le ministère de la Justice pour demander la libération de ces militants incarcérés. Et là, il y a eu un appel aussi pour pouvoir accueillir ces militants devant les prisons de la part donc des soutiens, il y a eu.
Le mouvement des jeunes kanaks en France, qui maintenant s'appelle Mouvement des kanaks en France, c'est plus élargi, qui a appelé des dimanches à des mobilisations pour le lundi, au moment de leur arrivée, partout devant les prisons où ils étaient. Donc ça a quand même été bien suivi. Il y a eu plusieurs rassemblements dans différentes villes. Et là, il continue d'y avoir des appels. Samedi, à Tours, il y a une manifestation. Tours n'est pas loin de Bourges et de Blois. Et à Blois, il y aura une manifestation dans la prison dimanche. À Mulhouse, il y aura une manifestation aussi. Voilà, en fait, les mobilisations continuent, ça s'organise. Et sur le site de Solidarité Kanaky, on essaye de mettre au maximum l'ensemble des informations. Le site, c'est collectif, non, c'est solidaritékanaki.fr.
La police de Paris nous donne encore quelques minutes avant de nous dégager. Donc nous allons faire une déclaration. Il ne va pas falloir partir de façon dispersée parce que là-bas, il y a la Bravem. Et dans toutes les rues, il y a des quarts de CRS. On a commencé tout à l'heure le rassemblement en nous enlevant les drapeaux de Kanaki avec des contrôles d'identité. Donc, on ne va pas se faire tabasser pour rien. D'autres rendez-vous vont avoir lieu dans la semaine. On voulait dire qu'il était important d'être ici, devant le ministère de la Justice, qui est privatisé. Monsieur et Madame Macron doivent assister tout à l'heure à un défilé de mode. Voilà. C'était important pour nous de donner ce rendez-vous devant le ministère de la Justice, comme nous l'avons fait dans les années 80, quand le peuple kanak, quand les militants indépendantistes étaient en but contre la répression. On se rappelle quand il y a eu les rafles à Canala, après l'affaire d'Ouvéa, quand les militants sont venus par avion cargo, avion militaire, pieds nus. Nous avions organisé une manifestation ici devant le ministère de la Justice. Il est important pour nous, citoyens de ce pays, de protester contre ces actions qu'on fait au nom du peuple français, en notre nom. Il est important pour nous, anticolonialistes, de dire que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie est insupportable. Cette dernière colonie de la France, on a condamné cette nuit 11 militants et militantes. Il y en a 7 actuellement qui sont dans un avion affrété par le gouvernement français. Un avion qui coûte plus de 500 000 euros pour les amener dans les geôles françaises. Ils vont faire 17 000 km pour être emprisonnés à Clermont-Ferrand, à Bourges, à Blois, à Mulhouse, à Villefranche-sur-France. C'est insupportable. C'est à notre nom qu'ils font ça. Voilà. On dit que ce genre, c'est militants dans l'indépendance. C'est des militants pour la liberté. On dit que ce sont les malfaiteurs. Qui sont les malfaiteurs? Depuis des mois, le gang Macron, avec sa bande Paquès, Le Cornu, Darmanin, font tout pour casser ce processus qui était l'admiration du monde entier, qui était le processus unique de décolonisation pacifique. Ils ont tout fait pour casser ça. La CCAT a organisé de puissantes manifestations pacifiques à Nouméa au mois d'avril. Ils sont passés en force, comme ils sont passés en force pour casser les accords de Nouméa, comme ils sont passés en force pour maintenir le troisième référendum, où le score du non à l'indépendance atteint 97%. Même dans les pays les plus dictatoriaux, on n'a pas ce score. Aujourd'hui, ce sont nos amis, ce sont ces familles qui sont traitées de malfaiteurs. Il va falloir cette semaine élargir la solidarité. Nous avons demandé à nos amis à Blois, à Bourges, à Chambéry, à Villefranche-sur-Saône, à Mulhouse, d'essayer d'organiser un comité d'accueil avec les drapeaux de la Kanaki quand les prisonniers arriveront, comme nous l'avons fait il y a une trentaine d'années. Il faut se mobiliser parce que aujourd'hui, les bruits de bottes du Front National sont présentes, résonnent. Il faut se mobiliser parce que le combat du peuple kanak, c'est le combat pour notre liberté à nous, en France. Donc cette semaine, nous allons faire et lancer des réunions pour de façon le plus large possible se rassembler. Merci à tous ceux et toutes celles qui, au dernier moment, sont venus.
Rajouter pour tout le monde. On rappelle quand même que manifester, c'est un droit. On n'a pas été interdit. Il n'y a pas d'interdiction. On n'a pas reçu d'interdiction pour manifester ici. Et jusqu'à ce que l'extrême droite ne passe pas, on a le droit de manifester comme ça dans Paris. Voilà, donc là, c'est de la répression qu'on vit aujourd'hui. On rappelle aussi que là, ça n'a pas été dit, mais aujourd'hui, c'est les camarades qui sont arrêtés. C'est des camarades qui sont mobilisés depuis des mois et qui défendent le droit international. Parce que la Kanaky, c'est pas la France. C'est un territoire non autonome au niveau des résolutions de l'ONU. Et c'est pas la France. Et donc la mobilisation qu'il y a eu contre le dégel du corps électoral, contre la reconnaissance du troisième référendum, c'est pour le respect du droit international. Et aujourd'hui, ce sont eux qui se font arrêter. Il n'y a jamais eu de problème depuis des mois. Mais par contre, les milices sur place qui sont armées avec des armes de guerre, qui ont fait des chasses à l'homme, qui ont tiré sur la jeunesse kanak. Parce que les morts aujourd'hui, c'est pas les kanaks qui les ont tués. C'est la milice aussi qui a tué 9 jeunes kanaks, de nombreux blessés, des centaines de blessés, des blessés par balles. Plus de 1000 interpellations. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses familles kanaks qui ne savent pas où sont leurs proches qui sont arrêtés. Et c'est inadmissible. Donc il y a eu transfert des camarades de la CCAT, mais il y a aussi eu transfert de prisonniers kanaks. Ils sont ici en France, dont on ne sait pas où ils sont et dans quelles conditions. Voilà, donc c'est complètement inadmissible. Ce sont des disparus aujourd'hui parce que les familles ne savent pas où ils sont. C'est inadmissible, c'est une justice coloniale. On dénonce aussi les 38 avocats du barreau de Nouméa qui ont fait une tribune de 5 pages en disant qu'ils ne font pas de la politique, mais ils font toute une démonstration pour reconnaître le troisième référendum à l'encontre du droit international et pour discriminer le mouvement indépendantiste kanak, discriminer les jeunes qui ont fait des barrages pour protéger leur quartier de ces milices qui sont armées, des milices racistes et coloniales, qui ont aussi des élus locaux qui ont été complètement proactifs et qui certains ont été vus avec des gilets pare-balles à pousser à la haine, à pousser à des actions de violence envers la jeunesse kanak et qui sont totalement responsables. Et tout cela, ils ne sont jamais inquiétés, ils n'ont jamais été interpellés, ils n'ont jamais été inquiétés par la justice. Voilà, c'est tout ça qu'on dénonce aujourd'hui, c'est inadmissible. Et on interpelle aussi toutes les mobilisations qu'il y a aujourd'hui contre l'extrême droite. Les mobilisations, se mobiliser contre l'extrême droite, c'est aussi se mobiliser contre le colonialisme, c'est aussi se mobiliser contre ces milices sur place en Kanaky. Et on a besoin qu'il y ait jonction dans ces mobilisations, et on lâchera pas jusqu'à la liberté pour la Kanaky.
Ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho d'Igarig à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Primitive.
La radio libre et associative.